Très bien.
Bon, on peut y aller. Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu de façon assez générale.
Oui, donc je viens du sud de la Suède, d'une famille de paysans où absolument personne ne parlait français.
Oui.
Et j'ai dû avoir 12-13 ans quand la France et la nouvelle vague a été connue en Suède, tout au moins, où Georges Brassens aussi a été très à la mode, traduite en Suède également.
Donc, ça a été le coup de foudre.
Coup de foudre total.
C'était à travers l'école, donc, que vous avez eu cette.
Oui, on avait un professeur français qui venait de Bretagne, donc il roulait les airs quand il parlait français, donc c'était pas très beau. Mais il a trouvé en moi un élève idéal.
Donc, là, vous avez pu.
Ben oui, c'est lui qui m'a fait connaître Jacques Prévert, je me rappelle. Et puis, j'étais la seule qui était passionnée. Donc,
Ça a tout de suite été une passion.
Ah, tout de suite. Et puis, j'adorais Claude Chabrol. J'ai fantasmé sur Jean-Claude Brialy.
Oui, c'était tout ça, quoi. Donc, c'est venu très jeune, quand même.
Je sais, parce qu'on avait... En suédois, à l'école, il fallait qu'on écrive sur qu'est-ce que je serai dans 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, je ne me rappelle plus. Et là, j'ai écrit que je vivrais en France.
Oui,
donc j'avais 13 ans.
Oui, vous savez que vous êtes. Donc ça a été les premiers contacts avec la langue, finalement.
Oui.
D'abord avec la langue.
Oui. Puis il y avait François Sagan qui avait sorti Bonjour Tristesse. Mm-hmm. Et après ça, je voulais devenir écrivain.
Mm-hmm.
À 16 ans.
Et alors, votre premier contact avec la France, votre...
Quand je suis venue la première fois j'ai dû avoir 17 ou 18 ans.
Mm-hmm.
Je suis venue en vacances avec une copine. On avait travaillé l'été pour gagner le sou, pour payer le voyage.
Et c'était, là, vous étiez à Paris ou...
À Paris,
oui,
à Montmartre, je me rappelle, rue des Abbesses. Et,
c'était la bonne période aussi.
Parfaitement. Donc, très à l'aise tout de suite.
Oui. Donc, ça a été à la hauteur de vos rêves. Vous n'avez pas été déçu.
Ah non. J'ai jamais eu plus grande passion qu'à ce moment-là.
D'accord. Donc, il n'y a pas eu un décalage entre la réalité et puis ce que vous aviez.
Et après, l'été après, je suis partie toute seule.
Oui.
Avec le train, parce que le problème, le train. Oui, mais. Je me rappelle, j'avais retenu un hôtel par correspondance, pas par mail ou
non,
téléphone. J'avais écrit une lettre et j'avais trouvé que rue Saint-Jacques c'était très bien parce qu'en plein quartier latin.
C'était courageux quand même.
J'aurais jamais voulu que ma fille.
Elle fasse, c'est souvent ça, on ne veut pas que nos enfants fassent ce qu'on a fait.
Donc, j'avais cette chambre d'hôtel, je me rappelle, le dernier étage. J'avais 40 de fièvre quand je suis arrivée parce que j'ai mangé. Là, j'étais triste. Là, je me sentais misérable. Parce que j'avais même pas la force d'aller en bas m'acheter à manger, rien du tout. Et ma mère, je me rappelle, était inquiète pour moi quand même. Elle avait mis, sans que je me rende compte, un psalm book. Vous savez ce que c'est? Tout le monde a un psalm book quand on passe la communion et tout ça. Ils sont blancs pour les filles. Et je me rappelle, je fouillais dans ma valise et il y avait ce psalm book là dans la valise. Et là,
là, ça a été. Là, vous
ma mère fait quoi? Et après, j'ai fait des connaissances, j'ai rencontré des Suédois.
Donc là, vous étiez partie pour y rester? Pour rester
à... Non, c'était pour passer un mois. J'avais travaillé un mois en Suède pour... c'est cet été-là que j'ai rencontré mon mari, mon futur mari. Aussi, coup de foudre.
Oui.
Et que j'ai ramené en Suède tout de suite, malgré mes parents qui disaient qu'il était hors question que tu arrives avec un étranger et qu'on prenne. C'est très tard. Puis là aussi, c'était un coup de foudre tout de suite.
Mais lui, vous n'êtes pas resté en Suède?
Si, moi, je suis restée en Suède.
Oui,
lui, il est revenu, Et puis là, ça a tout changé mes études et tout. Mm-hmm. Moi, je pensais faire anglais, français à l'université. J'étais inscrite et tout. Et il était plus, j'étais trop amoureuse.
Il n'était plus question de...
Donc, j'ai travaillé dans une banque pour gagner de l'argent pour pouvoir partir à Paris, etc. etc. C'est ce que j'ai fait pendant un an, des petits boulots. Et ensuite, il fallait que je trouve un boulot pour pouvoir venir à Paris. Donc, j'ai fait une année à Stockholm, qui ça s'appelait, ça n'existait plus, Borlaug Institute. D'ailleurs, qui est ici aussi, on s'est rencontrés.
Ah, d'accord.
Ouais. Une année très, très utile, où j'ai appris comptabilité, sténographie, taper à la machine, et un peu d'économie aussi. Trois langues, allemand, anglais, français.
C'est un bon bagage.
Vraiment, et très, très dense. Et voilà, moi j'étais tellement motivée là aussi parce que j'allais partir en France. Donc je suis sortie de cette école avec d'excellentes notes. Et je suis arrivée ici, j'ai été à la chambre de commerce de l'Oise pour chercher du boulot. Ça poussait sur les arbres à l'époque.
Oui, c'est
sûr. Donc j'ai eu trois adresses. C'était chez SKF à Clamart. Il y avait un bureau d'avocat. Et il y avait l'office de tourisme, Champs-Élysées, il y avait une maison de la Suède, c'était Champs-Élysées à l'époque.
Oui.
C'était le rêve pour moi, donc j'ai pris ce boulot-là. J'ai pris dans des trois boulots, je pouvais choisir. Donc j'ai pris ce boulot-là.
Un peu plus compliqué aujourd'hui peut-être.
Ah là 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 là, ça... Et voilà.
Et voilà, j'ai fini en aiguille.
Et voilà, il y a 30, 40 ans après.
Ouais. Et vous êtes tout de suite faite à la vie parisienne. Il n'y a pas eu de choc culturel.
Non, pas un.
Vous êtes tout de suite sentie à l'aise.
Ah, tout de suite. Ouais. Comme vraiment, ça pense. Je pense parfois à la réincarnation que j'ai dû vivre ici.
Oui, vous sentez, vous êtes tout de suite sentie.
Tout de suite. Et même, je me dis peut-être l'Afrique du Nord, même parce que je me rappelle, on mangeait beaucoup de couscous à l'époque parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Et
c'était bon marché.
J'adorais le couscous. Et encore aujourd'hui, c'est mon plat préféré de tous.
Oui, oui. C'était bon marché par le sud.
Et même quand mes enfants, surtout quand ma fille est née, elle a 34 ans. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal à lui parler suédois, que je laisse même laisser tomber.
Oui. Mais comment ça s'est passé? Donc, vous êtes tout de suite intégrée dans la société, en tout cas la vie parisienne. La langue, il n'y a pas eu de problème?
Si. Bien sûr, certainement. Je m'exprimais comme une vache espagnole. C'est sûr, je suis sûr. C'est en Martinique que j'avais pas le choix et où je voulais pas travailler parce que j'avais pas confiance en moi et je savais pas quoi faire. Donc mon mari travaille 8 heures par semaine, donc j'étais pas vraiment seule. Mais j'allais à la bibliothèque Schœlcher et je lisais presque un livre tous les jours. C'est là où vraiment
là où...
j'ai eu un vocabulaire correct et j'ai appris beaucoup de choses.
Donc cette période en Martinique, c'était une longue période?
Deux ans. Mais quand même, je crois même pas qu'on est rentré en France pendant 2 ans. J'étais vraiment coupée de la Suède. Mon frère est venu, certes, mais bon. Je sais que c'est là où j'ai pris l'assurance au point de vue langue, ça c'est sûr.
Et alors par rapport à la Suède, vous êtes toujours revenu régulièrement en Suède? Enfin, je ne sais pas si vous dites revenir d'ailleurs.
Je dirais bien toujours.
Oui, dans un sens.
Aussi,
dans
ça
on revient à des choses différentes.
Mais on revient toujours.
Oui. Vous êtes originaire de...
du sud, du Calmar.
Donc vous y allez régulièrement quand même?
Oui, maintenant j'ai plus de parents, j'ai mon frère toujours, oui, une fois par an maximum dans ma famille, mais à Stockholm je vais tous les mois. Et je lis énormément beaucoup en suédois.
En suédois aussi, oui. Donc vous avez les deux langues en parallèle.
Ah oui, oui. Et je dois dire, ça c'est marrant quand même, parce que je préfère lire en suédois
qu'en
français.
Vous sentez...
Parce que c'est tellement juste.
Oui.
Et que. Je sais pas comment vous dire, je trouve que c'est...
Et ça, vous le sentez pas forcément en français quand vous lisez?
Non.
Toujours un petit peu...
Mais j'ai lu énormément en français mais c'est pas le même plaisir. Pas s'identifier de la même façon.
Oui,
quand j'ai lu un livre en suédois, je peux m'identifier au lieu, oui. à la façon d'être, les pensées.
C'est pas que la langue, c'est tout.
C'est tout ensemble. Et que j'aurais bien aimé être traductrice d'ailleurs, oui. parce que trouver les expressions,
oui. Les images, tout ce qui.
Ça m'aurait plu. Hein. Mais c'est trop tard.
Oui. Faut jamais dire ça.
Non, j'ai une copine, je suis pas assez bonne, mais bon.
Juste avec trouver. Un particulier, ouais, c'est vrai.
Parce que on peut. C'est une recherche, il faut trouver le sens juste.
Oui, transcrire tout un concept, en fait.
Oui, parce que,
tout à fait. C'est ça. Mm-hmm. Au point de vue identité, vous vous sentez quand même encore suédoise ou française, ou les deux, parisienne?
Oui. Et plus je vieillis, plus je sens les racines.
Ah oui,
ça. J'ai 61 ans.
Donc vous sentez...
Je ne me sens pas française.
Non. Mais vous sentez, quand vous revenez en Suède, vous sentez comme les autres? Suédoise?
Oui.
Oui?
Oui.
Il n'y a pas un petit décalage?
Pas vraiment. Je sais que les autres pensent
dans le regard des autres, vous êtes
que j'ai fait
celle
française.
Qui a trahi.
Oui, enfin, je parler avec les mains et les, vous savez, les fonds.
Oui, oui. Hein?
Ça, c'est très français.
Ouais.
Souvent, on se moque de moi.
Il y a un langage corporel qui va avec.
Voilà. Ouais. Ouais, mais sinon, non, je considérais comme ça.
Parce que vous suivez quand même l'actualité.
Ah oui, oui.
Par le travail déjà.
Oui, bien sûr. Oui. J'adore aussi, je trouve que c'est mille fois plus drôle de lire Dagens Nyheter que Le Monde.
Oui, c'est sûr, c'est vrai.
Ça devient vite lourd en France quand c'est sérieux.
Ah oui.
Hein? Je trouve. C'est vrai. Et qu'il y a aussi tellement plus de mots en français que ce papier-là, il est en français. Oui. Peut-être il serait que ça, c'était celui-là. Mm-hmm. C'est plus concis.
Les phrases sont plus délayées.
Yes,
tout à fait. On complique toujours les choses.
Exactement.
L'art de compliquer, la France, c'est vrai. Et vos enfants, donc eux, sont nés en France.
Ma fille, elle est passionnée de la Suède aussi.
Donc vous avez transmis quand même ce côté.
Ils sont très fiers d'être, d'avoir un côté suédois.
Ils parlent les deux langues aussi.
Ma fille parle. Correctement. Mm. Elle a fait suédois en troisième langue au lycée.
Ah, c'était possible.
Elle a été ici aussi.
Ah, oui.
Enfin, elle l'a bien gardé ce qu'elle a appris. Elle adore la Suède.
Oui.
Elle adore. Elle aurait voulu rencontrer un suédois.
On ne fait pas toujours ce qu'on veut.
Mon fils, moi.
Oui.
Lui, par exemple, s'il y a la France et la Suède qui se rencontrent en football, il est pour la France.
Oui, bon, quand même. C'est intéressant, ça.
Mais ils sont fiers de
leur histoire suédoise.
Tout à fait.
Oui, alors vous avez vu aussi l'évolution à travers des décennies de Paris. Vous trouvez que la vie en France a beaucoup changé? C'est une vie assez difficile, vivre à Paris.
Je vis en banlieue en plus, mais j'ai toujours vécu au même endroit, à Palaiseau, au sud de Paris. Est-ce que bien sûr que ça a changé, mais moi aussi j'ai changé. Oui. J'ai vieilli, mais sinon, pas tant changé que ça. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivée en France, il y avait encore les bidonvilles.
Oui, on oublie.
Ça m'avait vraiment choquée parce qu'on n'habitait pas très loin d'un bidonville. Il fallait passer devant pour aller au supermarché. Il y avait un supermarché dans la région à l'époque. Et on passait devant ce bidonville à Massy, mais fait de carton et de tôle. Oui. Ça, il n'y a plus ça. Mais bon, la misère.
Une autre précarité,
oui. La précarité a changé de tête.
De tête, oui.
C'est aussi miséreux, mais ça se
voit d'une autre façon. Oui.
Parce qu'il y avait des mendiants aussi à l'époque. Oui. Sinon, je trouve que le quartier latin a changé beaucoup, que c'était mon quartier favori dans le temps. Mais non, c'est que le shopping, les boutiques,
c'est
à la mode.
Le quartier de Marie a beaucoup changé aussi.
Mais bien sûr, beaucoup aussi. Mais sinon, le français, je trouve que ça a toujours pareil.
Les Français sont identiques à eux-mêmes.
Oui, tant qu'ils n'ont pas beaucoup changé.
Si on voit les derniers événements en France, on voit beaucoup de magazines qui étaient sur la morosité, que la France ne va pas très bien, que les Français...
Ça me fait toujours un peu...
Oui, voilà, les Français ont toujours été râleurs, vous voyez.
Oui, c'est ça. Râleurs, contestataires et...
C'est vrai que ces derniers temps, on a accumulé un peu les noms à tous les niveaux, les événements. Comment vous avez vécu, par exemple, les... les émeutes de l'étranger, on voyait ça comme une...
Là, les récemment oui,
comme une guerre civile.
Non, pas du tout. Je crois qu'on a vécu ça sans façon. Ouais, on s'en est pas rendu compte. Ouais. On voyait à la télé que... Mais non, j'étais pas été catastrophée.
C'est finalement un peu le quotidien. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait nouveau, malheureusement.
Non, non, ça a été beaucoup plus impressionnant à l'étranger. J'ai l'impression que ce que les Français ont vécu, je ne dis pas non plus dans ces quartiers.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc, mais on a beaucoup médiatisé.
Mais ça a été très médiatisé, énormément médiatisé. Je me demande, c'est... Mais bon.
Vous n'avez pas senti, vous, dans le quotidien, les réactions des gens
Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais parce que je ne vis pas non plus à Seine-Saint-Denis,
oui.
À Clichy-sous-Bois, je ne sais pas comment ça s'appelait. Donc, c'est, peut-être je penserais différemment. Mais je sais que les gens téléphonaient de Suède.
Oui, c'est ça. Oh,
on ne voit rien. Non, ce qui avait fait beaucoup plus peur, c'est la peur des attentats. Parce que...
Vous avez senti un climat...
Il y en a eu ici, à rue... Comment ça s'appelle? Là où il y avait le restaurant juif très connu.
Ah, c'est rue des Rosiers, vous voulez
dire? Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'était... J'ai vécu ça, entre guillemets.
Oui, oui, c'est vraiment...
Et le soir où il y a eu l'attentat à Saint-Michel, dans le RER, ben, j'étais rentrée une demi-heure à la maison. Moi, je prends le RER B pour aller à la maison. Là, j'ai...
Oui, il y a eu toute une série comme ça.
Ça m'a beaucoup plus impressionné que dès qu'on voyait une valise.
Un climat de suspicion.
Oui, j'ai beaucoup. Ah, ça, franchement, ça, les attentats me font plus peur que les révoltes dans les banlieues difficiles.
Qui sont plus localisées. Donc, pour ça, c'est quand même une vie un peu plus. Si on compare avec la Suède, on est un peu. On se sent.
Les embouteillages aussi ont augmenté. Il y a plus de voitures. Ça me viendra. Parce que moi, j'ai travaillé ici plusieurs fois. C'est la troisième fois qu'on a nos bureaux ici. On a été aux Champs-Élysées. Et la dernière fois qu'on était ici, c'était donc début 90. J'allais en voiture de Palaiseau à ici, facile. On pouvait s'installer, il n'y avait pas de café, donc on pouvait se stationner dans la cour. Ce sera impensable aujourd'hui.
Oui.
Je pars à 6 heures, on peut être là à 7 heures moins quart. Pas pour travailler à 9 heures, c'est impensable. Ça ne viendra pas à l'idée. Je prends de moins en moins la voiture, de toute façon, parce que c'est trop pour se stationner, passer
son temps. Les embouteillages.
Ma foi, voilà.
Très bien. Bon, très bien. Parfait.